Nous lirons dans le deuxième livre des Chroniques, à partir du chapitre 17. Le choix de l'étude pour aujourd'hui s'est porté sur la vie du roi Josaphat, et les quatre chapitres 17, 18, 19 et 20 nous donnent un aperçu d'ensemble sur toute la vie de ce roi, et nous pourrons en tirer des enseignements et des leçons pour notre vie pratique, notre vie chrétienne. Nous commençons donc par le chapitre 17 du deuxième livre des Chroniques. Et Josaphat, son fils, régna à sa place. Le chapitre précédent nous annonce la mort du roi Asa, père du roi Josaphat. Et il se fortifia contre Israël et mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda, et mit des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm, qu'Asa, son père, avait prises. Et l'Éternel fut avec Josaphat, car il marcha dans les premières voies de David, son père, et ne rechercha point les Baals, mais il rechercha le Dieu de son père, et marcha dans ses commandements, et non comme faisait Israël. Et l'Éternel affermit le royaume dans sa main. Et tout Juda fit des présents à Josaphat, et il eut beaucoup de richesses et de gloire. Et il prit courage dans les voies de l'Éternel, et de plus, il ôta de Juda les hauts lieux et les achères. Et la troisième année de son règne, il envoya ses chefs, Benaïl et Abdias et Zacharie et Nétanel et Miché, pour enseigner dans les villes de Juda, et avec eux les Lévites, Shemaïa et Netania, Zébadia et Asaël et Shemiramoth et Jonathan et Adonija et Tobija et Tob Adonija Lévite. Et avec eux Elishama et Joram sacrificateurs. Et ils enseignèrent en Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Et ils firent le tour de toutes les villes de Juda et enseignèrent parmi le peuple. Et la frayeur de l'Éternel fut sur tous les royaumes des pays qui étaient autour de Juda. Et ils ne firent pas la guerre à Josaphat. Et il y eut des Philistins qui apportèrent à Josaphat des présents et de l'argent comme tribut. Les Arabes aussi lui amenèrent du menu bétail, 7 700 béliers et 7 700 boucs. Et Josaphat alla grandissant jusqu'au plus haut degré. Et il bâtit en Juda des châteaux et des villes à entrepôts. Et il eut beaucoup de travail dans les villes de Juda, et des hommes de guerre forts et vaillants dans Jérusalem. Nous passerons au chapitre 18. Et Josaphat eut beaucoup de richesses et de gloire, et il s'allia par mariage avec Akab. Et au bout de quelques années, il descendit vers Akab à Samarie. Et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui du menu et du gros bétail en abondance. Et il le persuada de monter contre Ramoth de Galaad. Et Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Viendras-tu avec moi à Ramoth de Galaad ?» Et il lui dit, « Moi, je suis comme toi, et mon peuple comme ton peuple, et je serai avec toi dans la guerre. » Et Josaphat dit au roi d'Israël, « Enquière-toi aujourd'hui, je te prie, de la parole de l'Éternel. » Et le roi d'Israël rassembla les prophètes, 400 hommes, et leur dit, « Irons-nous à la guerre contre Ramoth de Galaad, ou m'en abstiendrai-je ? » Et ils dirent, « Monte, et Dieu la livrera en la main du roi. » Et Josaphat dit, « N'y a-t-il pas ici encore un prophète de l'Éternel, pour que nous nous enquérions auprès de lui ?» Et le roi d'Israël dit à Josaphat, « Il y a encore un homme pour consulter l'Éternel par lui, mais je le hais, car il ne prophétise pas du bien à mon égard, mais toujours du mal. C'est Miché, fils de Jimla. » Et Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Et le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais promptement venir Miché, fils de Jimla. » Et le roi d'Israël et Josaphat, roi de Judée, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leur robe. Ils étaient assis sur une place ouverte à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Et Sédécias, fils de Kenaana, se fit des cornes de fer et dit, « Ainsi dit l'Éternel. » Avec celle-ci, tu heurteras les Syriens jusqu'à les exterminer. Et tous les prophètes prophétisaient de même, disant, « Monte à Ramoth de Galaad et prospère, et l'Éternel la livrera en la main du roi. » Et le messager qui était allé pour appeler Michée lui parla, disant, « Voici les paroles des prophètes, d'une seule bouche annoncent du bien au roi. Que ta parole, donc, soit, je te prie, comme celle de l'un d'eux, et annonce du bien. » Mais Michée dit, « L'Éternel est vivant, que ce que mon Dieu dira, je l'annoncerai. » Ensuite, c'est la prophétie de Michée. Cela concerne plutôt Akab. Nous passerons donc au verset 28 du même chapitre. Et le roi d'Israël monta, et Josaphat, roi de Juda, à Ramoth de Galaad. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je me déguiserai et j'irai à la bataille, mais toi, revêt-toi de tes robes. » Et le roi d'Israël se déguisa, et ils allèrent à la bataille. Et le roi de Syrie commanda au chef de ses chars, disant, « Ne combattez ni contre petits ni contre grands, mais contre le roi d'Israël seul. » Et il arriva que, quand les chefs des chars virent Josaphat, ils dirent, « C'est le roi d'Israël. » Et ils l'entourèrent pour combattre contre lui. Et Josaphat cria, et l'Éternel le secourut. Et Dieu les porta à s'éloigner de lui. Et il arriva que, lorsque les chefs des chars virent que ce n'était pas le roi d'Israël, ils s'en revinrent de sa poursuite. Et un homme tira de l'arc à l'aventure et frappa le roi d'Israël entre les pièces d'attache et la cuirasse. Et Akab dit au conducteur du char, « Tourne ta main et mène-moi hors de l'armée car je suis blessé. » Et la bataille se renforça ce jour-là et le roi d'Israël se soutint sur son char, vit David et Syriens jusqu'au soir. Et il mourut vers le temps où le soleil se couchait. Et Josaphat, roi de Juda, s'en retourna dans sa maison en paix à Jérusalem. Et Jéhu, fils de Hanani, le voyant, sortit au-devant de lui et dit au roi Josaphat, « Aides-tu aux méchants et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, il y a colère sur toi de la part de l'Éternel. Cependant, il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as ôté du pays les achères et tu as appliqué ton cœur à rechercher Dieu. » Pourrons-nous arrêter là? L'étude de la vie de ce roi Josaphat, qui fut un roi pieux, est instructive à plus d'un égard. Tout d'abord, nous voyons qu'au commencement de son règne, c'est un roi qui avait de bonnes choses en lui, ainsi que l'Éternel le déclare du reste un peu plus tard. C'est quelqu'un qui s'est fortifié contre Israël. La lignée des rois d'Israël était une lignée impie, incrédule, qui faisait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Josaphat, lui, a marché comme son père Asa avait marché, et il peut être dit dès le début de son règne, au verset 3 de ce chapitre 17, « Et l'Éternel fut avec Josaphat, car il marcha dans les premières voies de David son père, et ne rechercha point les Baals, mais il rechercha le Dieu de son père, et marcha dans ses commandements. » De deux autres rois, il est dit cela dans les chroniques, de trois autres rois, de Josaphat, d'Ézéchias et de Josias. De ces quatre rois seulement, dans ce livre des chroniques, il est dit qu'ils marchèrent dans les premières voies de David, leur père. Nous voyons comment Josaphat s'est fortifié contre Israël. Il a mis des garnisons dans les villes et dans toutes les forteresses. Ensuite, nous voyons que non seulement cela, mais disons que c'était des précautions, c'était se fortifier d'une façon visible, matérielle. Mais il est allé plus loin, et à partir du verset 7, nous voyons qu'il fait retourner le peuple à la loi de l'Éternel, et il fait enseigner par des envoyés, des lévites, des sacrificateurs, il fait enseigner la loi au peuple, pour que ce soit dans le cœur que cet affermissement puisse avoir lieu. Un peu plus loin aussi, nous le verrons probablement cet après-midi, après une épreuve qu'il a traversée, il reviendra aussi, il s'humiliera, il reviendra aussi à l'Éternel. Il acceptera sans protester ce que l'Éternel lui dira. Et il reviendra encore à l'Éternel. Mais à côté de cela, si ce fut un roi pieux, nous pouvons remarquer qu'il eut aussi ses faiblesses. Et nous le verrons dans l'étude d'aujourd'hui, à trois reprises, il s'est allié avec les rois d'Israël. il n'a pas su maintenir fermement la séparation d'avec les rois d'Israël. Et nous verrons cela dans l'étude que nous allons entreprendre aujourd'hui. D'un côté, il a été pieux et fidèle, mais de l'autre côté, dans sa marche pratique, il n'a pas su se séparer d'une façon réelle des rois d'Israël.
Frappé quand, dans ma famille, on lisait les chroniques, qu'il est dit de tant de rois de Juda qu'ils étaient fidèles, qu'ils faisaient ce qui est bon aux yeux de l'Éternel. Et pourtant, la fin, bien sûr, il y a eu Manassé, ce règne de Manassé, il y a eu Roboam d'abord, Abija, et puis, sauf erreur, Manassé, quand il est dit qu'il faisait ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel. Puis il faut attendre, après il y a le règne de Josias, d'Amon, puis de Josias, et puis ensuite les fils de Josias. Et tout se termine par une ruine parfaite. Pourquoi cette impression? Cette impression, elle ressort du livre de Chronique, parce que c'est Dieu qui, comme le dit M. Rossier, dans son étude, qui nous décrit là d'une manière particulière la lignée des rois de Juda. Mais il est important, quand on veut entrer dans le fond des choses, de regarder comment les choses se sont réellement passées. Il y a ici un témoignage de Dieu sur la piété. On insiste sur la piété de Josaphat, elle existe. Dieu insiste sur la piété, mais de tant de ses serviteurs, parce que cela l'honore. Mais si nous voulons en tirer un enseignement, nous devons regarder les conséquences qui restent après la mort d'un roi, et nous devons regarder aussi, nous avons parlé de moments de faiblesse, bien si nous regardons en détail ce qu'est Josaphat, c'est une vie de faiblesse. Ce ne sont pas des moments de faiblesse. Et c'est là que nous sommes touchés dans nos consciences. C'est que nos vies, nous pouvons être des hommes pieux, mais toute notre vie peut être une vie de faiblesse. Et c'est d'autant plus important quand on a une position importante comme la position de Josaphat. Quand on a une position de responsabilité dans les assemblées. Le contexte d'abord. Le contexte, c'est une lignée de rois, David, ensuite Salomon. Tous deux types de Christ. Et la maison de l'Éternel est bâtie après 10 ans de règne de Salomon, puis 30 ans de règne de Salomon. Et Salomon s'écarte, un homme qui pourtant a écrit tant de choses dans la parole de Dieu, inspiré, les proverbes, l'Ecclésiaste, un psaume, le Cantique des Cantiques. Un homme qui avait tout reçu de l'Éternel, un type de Christ dans la gloire, mais il termine mal. Et puis le royaume est divisé. Deux royaumes. Un royaume de Juda, un royaume d'Israël. On a rappelé la lignée des royaumes d'Israël. Ce sont des rois qui sont des impies, des méchants. Aucun d'eux ne fait bon, fait ce qui est bon aux yeux de l'Éternel. Ce sont des meurtriers pour la plupart. De l'autre côté, la lampe que Dieu permet qui reste à cause de David et à cause de Jérusalem. Premier roi, 17 ans, Roboam. Il fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Deuxième roi, Abija, 3 ans. Il fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Pourtant, il se glorifie de ce qu'il y a, les sacrificateurs, de ce que les pains sont rangés, les pains de proposition sont rangés, de ce que il y a l'holocauste du matin et l'holocauste du soir. Et puis Dieu donne une lampe. 40 ans, 41 ans, un roi, 41 ans, Asa, un roi pieux. Oh, lui aussi, il marche dans l'Éternel est avec lui. Il se fortifie en l'Éternel. Il a fait référence dans sa vie à celle de David. C'est la référence pour Dieu. C'est toujours David, 41 ans. Et puis son fils, Josaphat, 25 ans, il va régner. Pendant ce temps-là, on peut dire qu'est-ce qui s'est passé jusqu'au début du règne de Josaphat, pendant les 17 ans de Roboam et de d'Abija, il y a guerre contre Israël. Il y a guerre continuelle entre les rois d'Israël et les rois de Juda. Un temps de guerre, 20 ans de guerre. Et puis Asa vient. Oh, c'est un roi pieux. Et Dieu le bénit. Et Dieu, il fortifie ses villes. Et Dieu lui donne une armée, 560 000 hommes. Et Éphraïm, il prend des villes d'Éphraïm. Et les croyants du pays d'Israël, du royaume d'Israël, continuent à affluer, à fortifier le royaume d'Aza. Pendant 10 ans, pas de guerre. Puis Dieu lui envoie une épreuve. Il lui envoie une armée d'un million d'hommes. C'est Zérak, le roi d'Éthiopie, qui vient avec 1 million d'hommes, il n'a que 560 en face de lui. Josaphat a 4 ans, à cette époque-là, 4 ans. Oh, il s'en souviendra peut-être plus, mais on lui aura dit, il aura été rappelé. Que fait Asa? Oh, Asa n'a pas de force. Il s'appuie sur l'Éternel, il lui dit, il n'y a point de force en moi. Il n'y a point de force en nous. Mais Éternel, en toi, il te suffit, tu ne regardes pas s'il y a beaucoup de force ou peu de force. Et l'Éternel les détruit devant Dieu. 1 million d'hommes. Quel butin. La réponse de l'Éternel. Un croyant qui s'appuie sur lui. Et puis 5 ans passent, encore 5 ans de paix. On peut dire qu'il y a eu 15 ans de paix du temps d'Asa, sauf cette épreuve que Dieu lui a envoyée. Et voilà que le roi d'Israël, Baécha, il construit, il fortifie Rama. Rama, c'est en Éphraïm. Il construit cette ville pour que personne ne puisse rentrer dans le royaume d'Israël qui vient de Juda, et que personne d'Israël puisse retourner en Juda. Alors, Asa, il appelle au secours Ben-Hadad, le roi de Syrie. Bien sûr, je passe sur les détails. Pouvons chacun lire ça dans sa parole. C'est ce qu'il n'aurait pas dû faire. Et Dieu lui envoie un prophète. Il a gagné cause politiquement. Parce que Ben-Hadad de la Syrie va vers Israël. Et le roi Baécha, eh bien, il se retire ses troupes de Rama. Asa, enfin politicien, a gagné. Mais tu envoies Hanani, un prophète, et lui dit, mais quand les Éthiopiens sont venus, tu t'es appuyé sur l'Éternel, et maintenant, que fait Asa? Voilà un homme pieux, un roi pieux, très pieux. Faut lire tout ce qui a été dit de bon de lui. 26 ans, il ne répondra pas. Pendant 26 ans aux appels de Dieu, il ne répondra pas. Oh, Dieu lui a parlé, mais qu'est-ce qu'il fait? Il met le prophète en prison. Voilà ce que nous pouvons faire. Un homme pieux, qui était que Dieu avait donné comme une lampe. On dit 41 ans d'un roi pieux, 15 ans, oui, à peine. 26 ans d'un chrétien, pourrions-nous dire maintenant, bien qui a perdu sa réelle communion avec le Seigneur. Dieu lui parle, il lui envoie une maladie à la fin de son temps, mais il ne recherche pas l'Éternel. Mais il y a une chose que l'Éternel lui avait dit. Il lui a dit, eh bien, tu auras de la guerre pendant tout le restant de sa vie. De la 15e, il y a eu 26 ans de guerre. Eh bien, Josaphat a été élevé dans cette ambiance. À l'âge de 9 ans, c'est le début du 15e, c'est la 15e année la 16e année d'Asa. C'est là que son père a perdu la communion avec son Dieu. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu la guerre. Il arrive à 35 ans au royaume en n'ayant vu que la guerre, que la guerre, que la guerre. Oui, il a certainement jugé son père. Parce que nous réalisons, d'après ce que nous avons lu, qu'il s'est fortifié en l'Éternel son Dieu, il s'est fortifié contre Israël, qui est le royaume apostat, le royaume qui s'est détourné. Bien sûr, il y a des croyants en Israël. Mais les rois suivent tous. Il y a les veaux d'or, les veaux qui sont là, un veau à Bethel et un veau à Dan. Et ils font ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Faut-il s'associer avec eux? Que va-t-il faire? Que faut-il faire? Voilà, 26 ans de guerre, plus toutes les guerres qu'il y avait déjà eu avant. Il y a eu, depuis que Salomon est mort, il y a eu en tout et pour tout 15 ans de paix. Pour 60 ans en tout. Ah, Josaphat, il va faire autrement. Il se propose dans son cœur, comme nous l'avons lu et comme nous l'avons rappelé, de servir l'Éternel, de faire retourner le cœur du peuple, de se fortifier. Il se fortifie.
Oh, il se fortifie, nous le voyons, il construit des châteaux forts. Et Dieu lui donne, et c'est Dieu qui lui donne le succès. C'est Dieu qui le bénit. C'est Dieu qui bénit son peuple. J'oublie de dire qu'à 25 ans, son fils est né, Joram. Oh, il voudrait pour son fils certainement un règne de paix. Il voudrait qu'après lui, tout soit paix. Et voilà que Dieu lui donne la paix alentour. Et pendant son règne, je dis, il y a quatre périodes. Une première période de 6 ans, retenez bien ça. Une deuxième, 6 ans à peu près, au maximum. Au maximum 6 ans. Une deuxième période de 11 ans. Une autre période de 5 ans. Et une dernière période de 3 ans. Je voudrais rapidement exposer cela pour que nous soyons un peu dans le sujet. Nous voyons comment les choses se passent. La première période de 5 ans, cela commence donc par ce que nous avons dit. À la troisième année, c'est-à-dire après 2 ans, il y a 35 ans quand il commence à être roi. Il fortifie. À 37 ans, il se fortifie et puis il construit il se fortifie contre Israël. À 37 ans, il entreprend cette campagne de ramener le peuple vers son Dieu. Et puis, après, les choses continuent. Des châteaux forts, il va grandissant. On peut dire qu'il a 38, 39 ans quand il va grandissant. Il arrive à son apogée, là. Il arrive à son apogée, mais voilà le piège. Quel est le piège? Il est fort, Dieu l'a fortifié. Eh bien, il voudra savoir quelle est sa force. Il va faire comme David, il va faire un recensement. Et combien? Quelle est son armée? Une armée. 1 160 000 hommes, sans compter tous les gens qui sont dans les garnisons. 1 160 000 hommes avec lui à Jérusalem. Quelle armée! Oh, c'est sûr, Akab, le roi qui avait commencé à régner 4 ans avant lui, Akab commence à avoir du respect. Dieu lui a donné, là, la paix à Josaphat. Mais Josaphat pense qu'on commence à le respecter et que c'est à cause de son armée qu'il a la paix. Nous rappelons-nous ce que ça a donné quand David s'est élevé dans son cœur, qu'il a voulu recenser. Il y a eu 70 000 morts parce que Dieu l'a jugé. Et là, le cœur de Josaphat s'élève. Il prend confiance en ses propres forces. Et combien de temps cela va-t-il durer? À 39 ans, j'ai dit, à 41 ans, c'est fini. À 41 ans, c'est fini. À 41 ans, c'est à ce moment-là. Au plus tard, je dis bien au plus tard. C'est au plus tard qu'il s'allie avec Akab. Akab l'a tenu, Akab a eu du respect pour lui. Akab ne voulait plus l'attaquer. Et à ce moment-là, il pense à son fils qui maintenant a 16 ans, 15 ans, 16 ans. Il va dire, mais mon fils, je vais penser à lui. Et cette paix que j'ai acquise à cause de ma force, à cause de mon armée, je vais la consolider. Comment est-ce que je vais la consolider? Je vais la consolider par une alliance. Je voudrais vous dire comment est-ce qu'on peut calculer. Monsieur Rossier donne beaucoup de détails hein, sur les dates, mais elles sont importantes. Quand David a fait son recensement, avec tout Israël, il y avait 1 600 000 hommes. Là, il y a 1 160 000 hommes. Oh, il se confie en cela, il veut consolider, il veut dire, je vais avoir la paix pour toujours. Il va consolider son royaume et cette paix qu'il a tant désirée, au lieu de compter sur l'Éternel, il va compter sur des choses, sur des alliances politiques. Comme on fait dans le monde. Et c'est dans son cœur que cela a commencé. C'est pas Joram qui a épousé Athalie. C'est lui qui a cherché une femme dans le monde avec un roi qui était un roi le meurtrier, celui qui était le plus méchant et le plus mauvais roi d'Israël. Eh bien, avec celui-là, il va s'allier. En amenant cette famille chez lui. Voilà ce qui s'est passé. Il a 6 ans de règne, au maximum. Oh, je ne sais pas exactement quand les choses sont passées du temps d'Akab. 6 ans de règne, Akab régnait depuis 10 ans. On ne peut pas dire que Josaphat n'était pas conscient de ce qui se passait en Israël. Il savait certainement ce qui s'était passé. Hein. L'intervention d'Élie, enfin tout ce qui s'est passé. Deuxième période, une période de 11 ans. Cette période de 11 ans, c'est à partir du moment où il s'est allié
où Joram s'est marié avec Athalie, jusqu'au moment où il descend, le jour de la mort d'Akab. 11 ans. 11 ans. Qu'est-ce que Dieu va faire pendant ces 11 ans? Il ne nous dit rien, dit ces 11 ans. Dieu ne fait rien. Apparemment, Dieu ne fait rien. Mais Dieu parle à Josaphat par tout ce qui se passe en Israël. Il s'en passe des choses en Israël, où le peuple est ramené par Élie. Les prophètes de Baal sont détruits, sont tués. Dieu se ramène un peuple dans sa grâce souveraine, il agit. Au moment où le mal est le plus méchant et le plus mauvais, il agit en Israël et il ramène son peuple. Extérieurement peut-être, mais il le ramène. Et les Baals sont détruits. Et puis il sait aussi, pendant cette période, le caractère d'Akab n'a pas changé. Il n'a pas changé le caractère d'Akab. Et ces choses se savent. On ne peut pas dire que ces choses ne se savent pas. Parce qu'il est dit d'Élie que Akab a fait envoyer dans tous les royaumes pour le chercher. Donc Josaphat était bien au courant. Et puis en plus, Josaphat c'était à côté, hein, parce que c'est quand même pas loin. Hein. Samarie et Jérusalem, c'est une bonne journée ou 2 jours à pied. C'est tout. Et donc il sait ce qui se passe là-bas. Il connaît le caractère. Troisième période, je passe rapidement. Troisième période, Dieu lui parle autrement. Dieu lui parle parce que c'est dans cette période que sont tous les hauts et tous les bas après. Dans cette période, Dieu lui parle 6 fois, par 6 prophètes. Il a 6 contacts avec des prophètes. Il est important de détailler cela parce que, en réalité, on parle d'un temps de piété, mais encore dans ces temps de piété, il y a 2 alliances avec des gens, avec les rois d'Israël. Il y a vraiment des hauts et des bas et les choses sont telles que d'abord il donne la gérance à son fils, ce n'est plus lui-même qui règne, il règne à l'extérieur. Il est à l'extérieur, il s'occupe des affaires extérieures du royaume, et son fils qui règne. Et son fils qui, à ce moment-là, pendant sa gérance, tue tous ses frères. Et Josaphat laisse faire, c'est sur cela que je vais insister, Josaphat laisse faire. C'est un homme pieux qui revient, mais il laisse faire. Et les 3 dernières années de son royaume, eh bien, en réalité, il ne règne plus jusqu'à sa mort. Il ne règne plus, il a remis son royaume, le royaume, à son fils. Donc dans la période du royaume de Josaphat, il y a 4 périodes. Une première période de 6 ans, il grandit, et puis son cœur grandit aussi. Ensuite, pendant 11 ans, Dieu lui parle, mais il est en alliance avec le roi d'Israël. Et puis ensuite, pendant 6 ans, Dieu lui reparle par 6 prophètes. Et puis, il revient, mais on voit qu'il est trop lié avec le monde. Il est trop lié avec le mal pour pouvoir s'en sortir. Et il ne réagit pas, bien que Dieu lui parle. Et puis, 3 ans, il abandonne complètement. Et il meurt. 3 mots encore. En l'an 1004, avant Jésus-Christ, le temple a été construit, a été dédicacé. 5 ans après la mort de Josaphat, c'est Athalie qui règne à Jérusalem. 120 ans après seulement. 120 ans après. 120 ans après, la maison de Dieu est dévastée. La maison de Dieu, tous les trésors de la maison de Dieu sont enlevés. Voilà ce que peut faire un roi pieux. Et voilà ce que sont nos propres cœurs.
Courte remarque en lisant dans le Deutéronome au chapitre 22, verset 11. Tu ne te vêtiras pas d'une étoffe mélangée de laine et de lin tissés ensemble. Pendant ce passage, trois exemples. Dieu nous donne par la loi de Moïse le principe du mélange, et notre frère M. Bellet a écrit un opuscule qui se trouve d'ailleurs au dépôt concernant cela. Dieu est le mélange, et nous voyons dans l'histoire de Josaphat ces principes mélangés. Peut-être pas à un degré comme nous le trouvons ailleurs dans l'histoire de Lot, par exemple, mais nous trouvons des principes mélangés. En effet, début de son règne, il se fortifie contre Israël, et dans tout ce qu'il fait, dans ce premier chapitre qui a été notre lecture, eh bien, nous voyons qu'il fait ce qui est bon et droit aux yeux de l'Éternel, et il prospère. Mais ensuite, quelle contradiction lorsqu'il fait alliance par mariage avec Akab, donnant son fils à la fille d'un roi impie qui sera le meurtrier de Jabot. Et nous voyons donc ces choses, mes amis, doivent nous parler aujourd'hui. Les alliances, c'était quelque chose d'habile politiquement, cette alliance. Comme on l'a dit, il espérait avoir un règne de paix pour son fils, mais il allait à l'encontre de la pensée de Dieu. Et mes amis, aujourd'hui, ces choses doivent nous parler. Nous sommes dans un monde impie dont Satan est le chef, qui exerce sa puissance sur les fils de la désobéissance, et le principe qui demeure pour nous, bien-aimés du Seigneur, doit être une marche de séparation, sous toutes ses formes. Et nous pouvons faire notre profit des leçons qui nous sont données ici. Croyons pas être à l'abri de défaillance. Lorsque Josaphat descend vers Akab, au bout de quelques années, voyez comme c'est insidieux. Il descend, non pas géographiquement, mais moralement. Voyez comme Satan est habile pour nous faire descendre de la hauteur morale à laquelle nous sommes appelés. Que d'exemples dans la parole nous parlent de cela, mes amis. Abraham et Lot sont un vivant exemple de ce que nous avons là. Pouvoir goûter toujours la communion avec Dieu, ce doit être là notre souci. Dieu ne peut approuver les compromis que lorsque nous pactisons avec le mal, eh bien, nous devons en subir les conséquences. Et moralement, nous descendons du niveau auquel Dieu nous a placés. Nous puissions retirer de cet exemple, et on y reviendra, les leçons qui s'imposent à chacun de nous, et à quelque âge de la vie que nous soyons, nous ne sommes pas à l'abri, mais les jeunes sont encore plus vulnérables. Dieu nous accorde de tirer profit de cette leçon qui se dégage ici.
Les livres des chroniques nous présentent le côté de la grâce. Celui des rois, les deux livres des rois, nous présentent plutôt le côté de la responsabilité. Sans doute, il y a les rois d'Israël et les rois de Juda qui sont davantage mis en évidence, les rois de Juda dans les chroniques, ceux d'Israël dans les rois. Mais nous trouvons souvent les mêmes récits, et en particulier le récit de l'alliance de Josaphat et d'Akab se trouve également dans le premier livre des rois au chapitre 22. Et pourquoi avons-nous deux fois ce récit? Eh bien, dans les chroniques, livre qui nous présente l'histoire sous l'angle de la grâce de Dieu, ce récit est encadré par ce qui constitue la fidélité de ce roi. Nous avons bien d'abord insisté sur cet aspect-là. Et c'est beau de voir comment Dieu commence par les bonnes choses. Le chapitre 17 nous présente l'aspect positif de ce règne. Et tout ce que fait ici Josaphat, il se sépare du mal et il fait le bien. Est souligné par Dieu, comme pour dire, il s'agit d'un bon roi. Sa chute, d'ailleurs, n'en est plus significative. Quelqu'un a dit, le plus grave des péchés, c'est celui d'un homme pieux, parce qu'il donne à son péché tout le poids de sa piété. Et c'est cette fidélité de Josaphat que Dieu se plaît à souligner par plusieurs expressions sur lesquelles il ne faudrait pas passer par-dessus. Alors on a « Première voix de David » au verset 3. Au verset 6, « Il prit courage ». Et alors, entre deux, nous voyons qu'il se sépare du mal et qu'il fait le bien. Il n'a rien de commun avec les Baals. Il ne recherche pas les Baals, au verset 3 à la fin, mais il recherche le Dieu de ses pères, marche dans ses commandements. Et puis, ensuite, alors, un paragraphe très intéressant, du verset 7 au verset 11, qui nous montre qu'il a à cœur le bien du peuple. Et cela par l'enseignement. Nous trouvons trois fois le verbe enseigner dans ces versets. Enseigner dans les villes de Juda, au début du verset 9, et encore une fois à la fin de ce même verset 9. Donc, l'accent est mis sur son désir d'instruire le peuple. Voilà un roi qui, non seulement veut être fidèle lui-même, mais désire que son peuple le soit. Et il désigne ainsi plusieurs personnes, tout un petit groupe qui va aller d'un village à un autre village, d'une ville à une autre, et réunir le peuple pour leur parler. Parler de la part de Dieu, pas seulement de la part du roi, et pour enseigner, donc nous avons ici la loi, n'est-ce pas, le livre de la loi de l'Éternel, verset 9. Ils enseignent parmi le peuple. On pense à notre Seigneur lui-même dans l'exemple que nous avons en Marc 6 au verset 6. Il nous a dit, il visitait l'un après l'autre les villages à la ronde en enseignant. Et puis, on a attiré notre attention sur la grande armée qu'il a. Ce sera remarquable, nous aurons l'occasion de le constater cet après-midi, si Dieu le permet, en lisant le chapitre 20e, qu'il n'est plus question de cette armée. Ce ne sera pas elle qui va gagner la guerre contre les puissances étrangères. Mais il a ici, il y a des hommes forts et vaillants. Après l'enseignement vient la préparation au combat. On commence par s'armer, par se préparer. Et il y a un fruit de cet enseignement, de ce que, au verset 16, nous avons un général, un homme de guerre pourtant, mais qui s'était volontairement donné à l'Éternel. Comme si Dieu mettait là l'accent sur un fruit de cette fidélité du roi. Cette fidélité, elle est entraînante, elle sert de modèle au peuple. Et vous ne pouvez rien demander à personne, et nous parents, à nos enfants, si vous ne leur donnez pas l'exemple. Eh bien voilà un roi qui donne l'exemple. Et ce chapitre 17 est celui d'une grande fidélité, comme si Dieu mettait là bien l'accent sur la fidélité de ce roi avant de nous montrer la faute, la grave faute qui va entacher sa carrière et qui nous est racontée tout au long, parce que Dieu ne nous cache pas les défaillances d'un homme de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous y trouvons là une profonde instruction.
Nous avons dans ce début de règne de Josaphat un très beau commencement, parce qu'il repose sur deux principes d'une importance capitale. La séparation du mal, d'une part, et le retour à la parole de Dieu, d'autre part. C'est ce qui caractérise tous les réveils que Dieu, par son esprit, a suscités sous toutes les économies. La séparation du mal, c'est ce que nous voyons du temps de Josaphat, du temps d'Ézéchias, du temps de Josias, du temps d'Esdras et de Néhémie. Il y a cette purification du pays qui est obtenue d'une part en se retirant des idoles, des Baals, en s'en éloignant, en se protégeant contre ce qui avait l'apparence du service divin comme en Israël, mais qui en réalité était un culte idolâtre. Séparation donc de ce peuple qui portait encore le nom de peuple de Dieu. Séparation de tout ce qui pouvait déshonorer le nom de l'Éternel. Séparation aussi de ces hauts lieux, de ces achères que Josaphat prend soin d'ôter, verset 6. Il ôta de Juda les hauts lieux et les achères. C'est un travail qu'il avait commencé personnellement, qui n'a pas pu être achevé, nous le savons, puisque nous voyons au chapitre 20 et au verset 33 que les hauts lieux, tous les hauts lieux n'avaient pas été ôtés. Pourquoi cela ? Parce que le peuple n'avait pas encore disposé son cœur à rechercher le Dieu de ses pères. Nous voyons donc dans ce commencement de règne un homme pieux, un homme dévoué à la cause de l'Éternel, mais qui n'est pas entièrement suivi par son peuple. Néanmoins, il accomplit un travail remarquable. Ce travail de séparation du mal, comme nous le verrons donc, comme nous pouvons le voir aussi du temps du règne d'Ézéchias et de Josias, qui avait commencé par la purification du sanctuaire à ce moment-là, et qui avait continué par la purification de toutes les idoles du pays. Ici, il y a une purification. Une purification, une séparation du mal et une recherche de Dieu, de sa pensée et aussi de sa parole. Il rechercha le Dieu de son père et il marcha dans ses commandements. Le second principe qui est marquant de tout réveil parmi le peuple de Dieu, c'est le retour à la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu, le retour à la vérité première, à ce qui a été enseigné dès le commencement. Et bien entendu, pour les fils d'Israël de ce temps-là, c'était le livre de la loi. Et nous le voyons retrouver ici et enseigné, nous le voyons retrouver d'une manière particulière du temps de Josias, alors qu'il était couvert de poussière et égaré dans un coin du temple. Et nous le retrouverons aussi du temps de Néhémie. Cette parole de Dieu est enseignée par ceux qui étaient qualifiés pour cela. Il y avait parmi Israël une tribu qui avait été désignée par l'Éternel lui-même pour être consacrée au Saint-Service du sanctuaire, mais aussi pour l'enseignement de la parole de Dieu, comme nous le trouvons déjà en Deutéronome 33. Ils enseigneront tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. C'était donc les Lévites. Et nous voyons donc là les Lévites qui vont de ville en ville, peut-être de maison en maison, qui enseignent la parole dans tout Juda. C'était ce qu'il fallait faire. revenir à l'enseignement de la parole de Dieu pour s'y soumettre, pour se soumettre à tous ces commandements de Dieu comme Josaphat déjà marchait dans ses commandements. Il faut que tout le peuple soit enseigné, et c'est ce qui est toujours nécessaire dans un temps de réveil, même dans les temps actuels où nous sommes bénéficiaires de ce réveil qui a eu lieu dans la chrétienté au siècle passé. Nous en sommes comme les héritiers, nous avons à garder précieusement ce dépôt qui nous a été confié, cette parole creusée à nouveau par ceux que Dieu avait désignés pour cela, ses serviteurs fidèles, capables d'enseigner les autres et qui nous ont enseigné dans la parole de Dieu. Il faut nous souvenir de ces choses et revenir à ces choses du commencement qui ont été comme recreusées, retrouvées et placées entre nos mains, pour que nous les gardions maintenant, non pas pour que nous retrouvions ces choses, grâce à Dieu, elles ont été retrouvées, mais pour les garder fidèlement. C'est ce qui s'était passé du temps de Josias. Nous trouvons que les Lévites aussi étaient là et pouvaient accomplir leur travail. Au chapitre 35 de ce second livre des Chroniques, nous pouvons lire au verset 3, « Et il dit aux Lévites, Josias, qui enseignait tout Israël et qui était saint, consacré à l'Éternel, etc. » Nous voyons les Lévites, là aussi, enseigner tout Israël, et en particulier parce qu'au chapitre 34, le livre de la loi avait été retrouvé et avait été lu devant tout le peuple, avec une solennité toute particulière, et l'alliance avait été faite avec l'Éternel. Nous trouvons dans le livre de Néhémie aussi ces Lévites qui sont là, agissant bien à leur place. En Néhémie 8, verset 8, nous voyons que les Lévites, verset 7, faisaient comprendre la loi au peuple, et le peuple se tenait à sa place, et ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens, et le faisaient comprendre lorsqu'on lisait. Voilà ce qui est important. Avoir la parole de Dieu entre les mains, mais aussi être enseigné par ceux qui sont qualifiés pour cela, pour que la parole soit comprise, afin qu'elle soit reçue par la foi, afin qu'elle soit vécue ensuite. C'est tout un processus qui est d'ordre divin, selon ce que Dieu a voulu. Le Seigneur a placé ses dons dans l'Assemblée, afin que, par ces dons-là, l'Assemblée soit édifiée, et afin que chacun soit bien fondé dans la parole, que le livre étant compris, lu distinctement, compris dans son sens profond, spirituel, puisse être aussi appliqué à la marche de chacun de nous. Alors tout le peuple de Dieu pourra être disposé à rechercher de tout son cœur le Seigneur, non pas comme ce temps-là du temps de Josaphat où le peuple n'a pas eu son cœur disposé. Il faut que le nôtre le soit. Il faut que nous recherchions ces choses qui sont si précieuses, cette nourriture pour nos âmes, afin que nous vivions par elle, par cette parole de Dieu, et qu'un témoignage alors soit rendu devant ce monde de ce que nous sommes, de ce à quoi nous nous attachons, quelles sont les valeurs qui sont les nôtres, la parole de Dieu elle-même. Et nous voyons les conséquences du temps de Josaphat. La frayeur de l'Éternel fut sur tous les royaumes des pays qui étaient autour de Juda, et ils ne firent pas la guerre à Josaphat. Pourquoi cela? Était-ce parce que Josaphat avait une grande armée? Non, le recensement n'est pas encore fait, la parole de Dieu ne nous parle pas encore de cette nombreuse armée, mais la parole nous parle de la valeur de la loi lue devant tout le peuple, parce que Josaphat marchait selon ses commandements, et c'est cela qui cause la frayeur au monde, c'est cela qui éloigne l'ennemi. La puissance d'une parole non seulement connue, mais vécue, et qui impose le respect à ceux qui peut-être voudraient nous nuire. Et il y a même un résultat plus positif encore, ce sont des dons apportés là à Josaphat par des étrangers, des Arabes, des Philistins, des gens qui s'inclinent devant cette puissance que Dieu a donnée à son roi et à son peuple, que Dieu a donnée parce que le roi est fidèle. Non pas parce qu'il est puissant, parce qu'il a une forte armée, mais parce qu'il est fidèle à son Dieu. Voilà donc un témoignage rendu devant le monde, et c'est aussi ce témoignage que nous avons à rendre, nous, dans un temps de ruine, montrant que nous avons à cœur de porter la parole de Dieu dans nos cœurs et de la vivre, et c'est cela qui fait la puissance actuelle du peuple de Dieu.
La vie de Josaphat est utile à deux points de vue pour chacun de nous. C'est que nous devons tirer profit de sa piété, qui est très réelle, puisque il est dit que l'Éternel fut avec Josaphat. quand l'Éternel se plaît à souligner une telle expression inscrite dans le livre de Dieu, eh bien, elle doit retenir toute notre attention. Dieu était avec lui. Il y a eu un moment dans son existence, comme nous l'avons souligné, où ses voix étaient agréables à son Dieu. Mais nous savons, enseignés par nos propres vies, si nous jetons un regard en arrière, qu'il y a eu aussi des moments de défaillance. Et nous devons tirer profit également de ce que l'Écriture souligne quant aux causes déterminantes de cette chute de ce roi pourtant pieux. Et nous voyons que, au début de ce règne, il est dit, dès le premier verset, qu'il se fortifia contre Israël. Il était bien conscient qu'il y avait un ennemi là. Et souvent, ce sont nos plus proches, si nous ne veillons pas, qui peuvent avoir ce caractère-là. Et il y avait sans doute chez Achab une très grande responsabilité. Il était à la tête des 10 tribus et il avait des comptes à rendre à Dieu quant à lui-même. Et il a eu bien souvent des avertissements par des hommes de Dieu lui-même. Il était capable même de s'humilier d'une façon tout à fait remarquable que Dieu se plaît à souligner. Néanmoins, c'était un homme méchant. C'était un homme inique qui se plaisait dans l'idolâtrie. Et Josaphat, certainement au début de sa carrière de roi, l'avait compris. Il est même ajouté un peu plus loin que il rechercha le Dieu de son père, verset 4, et marcha dans ses commandements et non pas comme faisait Israël. Voilà. Il était donc très averti sur ce point et très conscient du danger que représentait pour lui-même et pour son propre peuple qu'il aimait sans aucun doute, comme nous le voyons dans ce chapitre, était très conscient du danger que représentait Israël. Israël qui était plus avancé dans l'idolâtrie que ne l'était Juda, où il y avait encore de bonnes choses dès l'instant où un roi pieux se trouvait à sa tête. Donc le premier principe, effectivement, c'est cette séparation de tout mal. Et cet enseignement traverse toute l'Écriture. Ésaïe lui-même le confirme, cessez de mal faire, apprenez à bien faire. Romains 12 nous rappelle aussi, Romains 12, verset 9, nous rappelle aussi cela. Commencez par nous séparer du mal, nous séparer de tout ce que Dieu nous désapprouve. Et la parole est très claire sur ce point. Elle touche tout à la fois au côté moral et au côté doctrinal dans la vie de l'homme de Dieu. De tous ceux qui appartiennent à leur Dieu, ils sont prévenus sur ces deux dangers. Et nous voyons que Josaphat se sépare du mal, se sépare de l'idolâtrie. Et cela est agréable à Dieu. Cela demande beaucoup d'énergie que de rejeter le mal. Une énergie constante, et l'ennemi est à l'affût de nos moindres défaillances, et d'autant plus si nous avons une vie de piété, une vie consacrée au Seigneur. La moindre défaillance, Satan est tout prêt à l'exploiter, car nous avons besoin d'être fortifiés, d'être nourris dans nos âmes. Un croyant, c'est le premier stade de la vie du chrétien, a besoin de nourriture spirituelle pour son âme. Et Josaphat l'avait très bien compris en ramenant le cœur du peuple vers la loi, car chacun a sa propre responsabilité en possédant la loi et la parole de Dieu aujourd'hui au complet entre nos mains. La responsabilité de ceux qui sont à la tête du troupeau est certaine, et personne ne peut l'oublier, mais la responsabilité de chacun de ceux qui font partie du peuple de Dieu est aussi engagée. D'où l'importance de l'enseignement d'assemblée, comme cela vient d'être souligné. Nous devons prier pour que dans chaque assemblée, il y ait des frères qui aient été formés à l'école du Seigneur pour exercer le don que nous recevons de l'Esprit qui est souverain
et pour le discuter, et ce don ayant entendu l'édification de l'Assemblée. Nous voyons là combien ces hommes de Dieu sont disponibles pour enseigner la loi de Dieu, la loi de l'Éternel. Et c'est tout le reste là. Invité par l'enseignement à que chacun soit exercé pour la sainteté pratique dans sa vie, la séparation de tout mal. Et nous avons un passage qui est important dans la première deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6, lorsqu'il dit « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules ».
Et puis nous voyons que ceux qui sont saints doivent se séparer, soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous recevrai, je vous serai pour père et vous me serez pour fils. Voilà la pensée de Dieu qui n'a pas changé à l'égard de son peuple, à l'égard de ses chers rachetés. Une sainte séparation de tout mal, de tout ce qui n'est pas en accord avec les principes de l'Écriture à laquelle nous sommes invités de revenir constamment. Alors comment se fait-il que Josaphat ait fléchi dans cette vie de piété? Combien cela est instructif aussi. Et pourtant, un Israélite pieux était assuré de la bénédiction de l'Éternel qui concernait les questions matérielles en particulier. Mais nous voyons au psaume 62 un avertissement de toute importance à ce sujet que peut-être Josaphat n'a pas suivi. Il est dit au psaume 62, verset 10, « Si les biens augmentent, n'y mettez pas votre cœur. » Tout se joue dans le cœur, dans la vie de chacun de nous. Les décisions, en fait, sont arrêtées dans le cœur. On a beau raisonner logiquement, mais un homme est ce qu'il aime. Et si son cœur est pris par autre chose que par Dieu, que par la gloire de Dieu, eh bien ce sont les choses matérielles, quelles qu'elles soient, les objets ou les personnes qui prennent de l'importance, peut-être une armée, comme nous l'avons souligné aussi, et ce peut-être cette prospérité qui caractérisait Josaphat, parce qu'il était béni de l'Éternel. Au fond, ce qui s'est passé probablement à son égard, c'est que son cœur étant pris par ses richesses extrêmement importantes, il a oublié le donateur. Il a oublié celui qui dispense ses biens. Et tout bien que Dieu nous communique, nous apporte, nous devons toujours ne pas perdre de vue que nous avons à le rattacher au souverain donateur. Pourquoi faire ? Pour rendre grâce, pour le bénir, pour ses nombreux bienfaits, les moindres petites choses. Garder constamment un lien vivant et intime avec celui qui nous donne toutes choses richement pour jouir, comme le dit Paul à Timothée. On peut penser qu'il y a là, sans doute, quelque chose qui s'est interposé entre le cœur de Josaphat et son Dieu, puisque ce n'est pas du jour au lendemain qu'une chute se produit. Ne le croyons pas. Il y a des petits commencements. Il y a des points sur lesquels nous avons manqué de vigilance. Et voilà que tout à coup, il apparaît au grand jour et en public qu'une alliance que Dieu désapprouvait se contracte. Et combien à cet égard nous avons besoin aussi de crier au Seigneur, nous les parents chrétiens, pour nos enfants, afin que le Seigneur donne sa réponse dans les unions pieuses, selon le Seigneur, dans le Seigneur, selon sa pensée, car il y a le chemin du jeune homme vers la jeune fille, c'est toujours vrai, et une alliance selon Dieu peut être en très riche bénédiction, non seulement pour ce foyer qui peut avoir son rayonnement propre, mais aussi pour toute une assemblée, et quand on pense au couple Aquila et Priscilla, eh bien, cela débordait le cadre de l'assemblée dans laquelle ils se trouvaient. Ils avaient une influence sur de nombreuses assemblées par leur vie de piété. Voilà une union qui était selon Dieu. On peut en dire autant des parents de Moïse. Un homme de Lévi alla et prit une fille de Lévi. Voilà les unions que Dieu bénit. Cette union, elle a porté des fruits. On peut dire, Josaphat était le quatrième roi en Juda, c'est seulement le 12e pour lequel Dieu se plaît à souligner sa piété, c'est-à-dire Ézéchias. Et il y a une très longue interruption qui montre les conséquences lourdes et lointaines de ce qu'un homme de piété, un homme de foi, ayant manqué, a pu entraîner malheureusement. À nous de saisir ces avertissements.
C'était un mariage socialement bien assorti. Un roi marie sa fille au fils d'un autre roi. Et extérieurement, c'était même un élément très positif. Ces deux royaumes qui vivaient en guerre depuis le temps de Roboam, depuis ce schisme dû à l'orgueil du roi Roboam, eh bien, voilà enfin les deux royaumes qui se rapprochent de la manière la plus, apparemment la plus favorable possible. Pour Akab, il y avait certainement un calcul politique, parce que avoir pour gendre le fils de Josaphat, c'était s'assurer aussi une certaine mainmise sur le royaume de Juda. Et on peut même se demander si le piège qu'il tend un peu plus loin au cours de la bataille à son allié d'un moment, en lui faisant revêtir ses robes alors que lui se tient à l'écart, n'était pas un désir pervers d'amener la mort de ce roi avec qui il s'était allié un moment. Mais il aurait alors, il se serait débarrassé de son rival et par l'intermédiaire de sa fille, de son gendre, il aurait mis la main sur le royaume de Juda. En politique, tous les calculs sont possibles, nous le savons. Mais enfin, où était Dieu dans tout cela? Alors, Josaphat s'est laissé prendre, et quand on est sur un mauvais terrain, alors l'engrenage, on n'a plus aucune force. Et on le voit ici. Il y a un festin au début de ce chapitre 18, il y a une abondance de bétail tué pour tout le monde participe, c'est la liesse, c'est la joie générale, et dans l'euphorie de ce festin, Akab fait une remarque, voilà, il y a Ramoth de Galaad. Oh, Ramoth de Galaad, c'était une ville de refuge pour l'homicide, comme nous le montre le chapitre 4 du Deutéronome. Il y avait donc là une raison religieuse pour reprendre Ramoth de Galaad, et Josaphat, sans réflexion, sans temps de prière, sans aucun exercice, comme nous disons, le voilà qui dit « Oh, moi, je suis comme toi, mon peuple comme ton peuple, et je serai avec toi dans la guerre. » On est désarmé devant une telle inconscience, n'est-ce pas? Mais il faut bien comprendre comment la chose s'est produite, quel contexte il s'est laissé lier une première fois, et alors maintenant il ne peut plus reculer. Et le voilà engagé par sa parole avec Akab, qui est un homme foncièrement mondain et à la recherche de ses propres intérêts. Et alors, pour avancer un petit peu, nous arrivons à cette convocation des prophètes d'Akab. Akab avait 400 prophètes. Oh, tu es un homme très religieux, 400 prophètes. Mais si nous regardons avec soin dans le premier livre des rois, au chapitre 17, c'est justement l'étude de notre frère Rossier qui fait remarquer cela, il y avait 850 prophètes à la cour d'Akab et Jézabel, 450 prophètes étaient les prophètes de Baal, qui ont péri au torrent du Kizon, dans la scène mémorable où Élie invoque le feu du ciel, et ces prophètes ont péri, mais il restait les 400 prophètes des Achères. Et tout permet de penser que les voilà, ces 400 prophètes, ils sont à la cour d'Akab, où ils ont changé, dirions presque changé de religion. Ils sont là maintenant, ils parlent de l'Éternel, ça ne les gêne pas. Mais ce sont des flatteurs, ils cherchent simplement à conserver leur influence sur le roi. Et ainsi, quand Josaphat dit, voilà, enquière-toi, il y a quand même un travail de conscience chez lui, il se dit, mais, et la parole de l'Éternel. Vraiment, souvent nous faisons ainsi, n'est-ce pas, nous prenons une décision, rapidement, on est impulsif, et puis on dit oui, mais après, il y a quand même, pour l'homme pieux, cet exercice. Est-ce que c'est bien la volonté de Dieu? Et alors, Josaphat est désarmé, ses 400 prophètes confirment l'intention du roi, ils n'ont d'ailleurs rien à perdre. Si Akab ne revient pas de la guerre, il ne pourra leur faire aucun reproche. S'il en revient, ils auront eu raison. Alors on voit quel calcul dans cette réponse qu'ils font et qui doit encourager ces deux rois dans un chemin qui paraît tellement bon extérieurement. Et c'est confirmé par c'est des sias qui se fait des cornes de fer, n'est-ce pas, où, voilà les moyens puissants mis à la disposition de la religion des hommes.
Il n'y a eu qu'un seul homme sur la terre qui a été parfait, dont toute la vie a été pour la gloire de Dieu, sans aucune défaillance, et nous le savons, c'est notre modèle, lui seul, Christ. Mais quant à nous, bien qu'étant régénérés par la vivante et permanente parole de Dieu, il n'en demeure pas moins vrai que nous avons toujours en nous la vieille nature. Et nous l'aurons jusqu'à notre dernier souffle. Car Dieu, nous le trouvons dans les Épîtres, et si nous jetons un regard de foi à la croix, nous ne voyons pas que Dieu ait pardonné le péché dans la chair. Il est dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Romains 8, verset 3. Et nous sommes donc constitués comme étant morts avec Christ. Mort avec Christ, vivant avec lui. Mais comment allons-nous réaliser, chers amis, cette marche avec Dieu dans la mortification du vieil homme pour résister aux tentations qui sont devant nous? L'Épître aux Galates nous le dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. On pourrait chercher dans l'histoire d'Enoch, si nous en avions un long développement, mais il n'y est pas, on pourrait chercher dans cette vie quelque chose qui pût faire un éclat dans la vie d'Enoch. Il n'y en a pas. Elle n'est pas comme cette vie de Jacob, qui a été pleine d'éclat. On a parlé de Jacob, mais on parle moins d'Enoch. Mais ce qui a caractérisé la vie d'Enoch, c'est de toute beauté. Et nous le savons, c'est qu'il a marché avec Dieu. Non pas 3 semaines, mais 300 ans. Depuis qu'il a engendré Methuselah, depuis qu'il avait un fils, Enoch a eu sur le cœur de marcher avec Dieu. On parle de séparation. Et certainement, il faut en parler. On n'en parle pas assez aujourd'hui. La séparation du monde social, politique, religieux, il faut en parler dans les assemblées, dans les familles. Nous devons montrer à nos enfants ce qu'est la séparation, mais ce en quoi elle consiste, par quoi et pourquoi nous sommes séparés. Nous connaissons la vie d'Ézéchias. Ézéchias qui fut un roi pieux, un roi le plus pieux de tous les rois de Juda. Cependant, lui aussi, à un moment donné de sa vie, il tombe par l'orgueil. Et qu'est-il dit dans le second livre des Chroniques? Il est dit que Dieu l'abandonna pour qu'il connût ce qu'il avait dans son cœur. Chers amis, et nous pensons ici particulièrement à la jeunesse, Nous devons connaître nos propres cœurs, ce que nous sommes par nature. Et cela, nous ne pouvons pas connaître ce que nous sommes dans nos cœurs si ce n'est par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant en nous comme puissance, puissance de la vie divine, nous réalisons que nous ne valons rien, que nous ne sommes que des incapables sans Christ. Marcher avec Dieu sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Sans le Saint-Esprit, vivre une vie de foi, de piété, de communion avec Dieu, c'est impossible. Eh bien, cette vie de Josaphat, comme bien de la vie de bien des hommes dans la parole, nous amène à penser que nous devons veiller chacun sur nos propres cœurs. Nos cœurs, comme l'a dit Alfred Guignard, c'est un foyer d'iniquité, le cœur humain. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Et nous devons être d'accord avec Dieu et reconnaître cela. Dieu a dit, l'homme est incurable. Et la croix est là pour le dire. Tant que nous n'avons pas reconnu cela, nous ne pouvons pas marcher avec Dieu et nous sommes sujets à toutes les tentations et à toutes les faiblesses. Mais si nous marchons avec Dieu, nous connaissant nous-mêmes et veillant sur nos propres cœurs, chers amis, nous irons de victoire en victoire, mais avec le Seigneur. Que le Seigneur nous accorde à chacun et à la jeunesse de connaître notre propre cœur, mais ne pas en rester là, de regarder plus haut d'où vient la force, elle vient de Christ.
Les hauts lieux, c'était des lieux qui n'avaient pas été désignés par l'Éternel. Il y avait un lieu et un seul que Dieu avait choisi pour y faire habiter son nom, c'était Jérusalem. Avant que le tabernacle revienne à Jérusalem avec l'arche, il y avait eu des hauts lieux, Gabaon, Dieu l'avait toléré. Nous savons qu'il s'était même adressé à Salomon sur ce haut lieu du Gabaon. Mais à partir du moment où le culte divin a lieu à Jérusalem, le temple est construit, où tout ce qui concernait le culte divin est établi, à partir de ce moment-là, tout autre endroit était un endroit choisi par l'homme et non pas par Dieu. Nous voyons à plusieurs reprises certains rois de Juda ôter ces hauts lieux, tous ces cultes qui se pratiquaient dans ces hauts lieux, c'était selon la pensée de Dieu. Nous avons dit et souligné tout à l'heure que Josaphat n'avait pas pu compléter ce qu'il avait commencé au verset 6e de chapitre 17, mais néanmoins il a eu cette pensée qui était selon l'Éternel. Les Achères, nous savons, c'était des images taillées, c'était des idoles. Il est évident que cela c'était plus grave que de rendre culte sur un lieu choisi par l'homme, c'était s'incliner devant des idoles. Tout cela devait donc être balayé, et l'a été en particulier et complètement par Josias seulement. Nous voyons ici donc que Josaphat semble avoir laissé une œuvre inachevée. Cela vient d'être souligné. Les hauts lieux sont là. Il avait bien commencé, mais quelque chose l'interrompt brutalement. Et ce quelque chose, c'est cette alliance néfaste de son fils avec la fille d'Akab. Une interruption totale quant au témoignage et une descente. Une descente, nous pouvons dire, jusqu'à la mort. Et elle se serait terminée par la mort si Dieu n'y avait pas mis la main, si Dieu n'avait pas préservé son roi, celui qui était quand même pieux dans son cœur, mais qui, par faiblesse, s'était laissé entraîner sur un chemin de descente. Et tous ceux qui veulent vivre selon la chair sont destinés à mourir. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et c'était le chemin que suivait Josaphat, c'est un chemin terrible que celui-là. Et c'était pourtant le chemin d'un croyant, un chemin qui était un mauvais chemin. Encore une fois, soulignons bien le point de départ. Cette alliance avec la famille d'un roi idolâtre et d'une femme qui était bien pire encore qu'Akab. Nous savons que c'était Jézabel qui l'a poussé à mal faire et qui l'a poussé à s'incliner devant les faux dieux. Eh bien, c'est cette fille, cette Athalie-là qui va entrer dans la maison de Josaphat. insistons encore. Dès la sortie du pays d'Égypte, il y avait eu cette séparation de ce monde idolâtre par Moïse. Moïse était chargé par l'Éternel de sortir le peuple de Dieu du pays d'Égypte. Et le Pharaon voulait garder ce peuple pour qu'il sacrifie à l'Éternel dans l'Égypte. Impossible. Le Pharaon voulait qu'il reste à la frontière. Impossible. Il fallait faire le chemin de 3 jours, nous savons de quoi cela parle. Et le Pharaon, enfin, voulait garder les petits-enfants. Dieu me garde de laisser aller avec vous les petits-enfants, je les garde avec moi. Vous les hommes faits, allez et servez l'Éternel, puisque vous l'avez voulu. Quelle belle réponse de Moïse. Nous irons avec nos jeunes gens et avec nos vieillards. Nous irons avec nos fils et avec nos filles, avec les familles tout entières. Il savait bien ce qu'il faisait, le Pharaon et Satan qui étaient derrière. En laissant les petits-enfants dans le pays d'Égypte, il savait bien que les parents reviendraient là où les enfants sont. Ces alliances coupables, c'est quelque chose de terrible. Parmi le peuple de Dieu, il doit y avoir une détermination absolue pour les parents d'inculquer cela aux enfants. Il y a union possible avec des enfants de Dieu qui s'inclinent devant la parole de Dieu qui a été enseignée, qui en suivent tous les commandements et qui restent dans le chemin qui a été enseigné une fois pour toutes dès le commencement. Voilà ce qu'il convient de faire. Voilà ceux avec lesquels nous devons marcher. Invoquer le Seigneur d'un cœur pur, avec nos enfants, avec nos petits-enfants, ce doit être le désir de tous les parents. Ce n'a pas été le désir de Josaphat de se séparer d'Akab jusque-là. Il s'était pourtant fortifié contre Israël, il n'avait pas fait comme faisait Israël, mais voilà qu'il s'allie avec le roi d'Israël par sa famille. Et nous voyons alors qu'il descend. Il descendit vers Akab, verset 2. C'est un chemin qui commence à descendre lorsqu'il est attiré, bien sûr, par la famille avec laquelle son fils était désormais uni. Il descend vers Akab, et Akab, encore une fois, fin politique, sait le séduire. Il ne lui propose pas tout de suite, « Viens avec moi pour délivrer Ramoth de Galaad de la main des Syriens », non point. D'abord, il tue pour lui beaucoup de bétail. Ils font bonne chère, ils peuvent ainsi montrer qu'ils sont parfaitement amis et qu'en tant qu'amis, ils doivent marcher ensemble désormais à la guerre. Cela va de soi, tu ne me laisseras pas aller tout seul. Tu es... Alors, cette réponse de Josaphat, cette malheureuse réponse de Josaphat, nous pouvons bien le dire, « Moi, je suis comme toi. Moi, Josaphat, je suis comme toi, Akab. » Mais c'est terrible comme réponse. Moi, un roi pieux, fidèle, connaissant l'Éternel et désirant le servir, voilà qu'il dit, je suis comme toi, Akab, un roi impie, un roi qui, poussé par Jézabel, a introduit tous ses Baals dans le pays d'Israël. Quelle confusion terrible. Gardons-nous bien de nous laisser entraîner dans de telles confusions. Cela n'est pas possible avec un monde parfaitement idolâtre, mais cela était possible là avec un roi qui gouvernait, le roi d'Israël, qui gouvernait encore 10 tribus, qui avait pour Dieu l'Éternel lui-même. C'était encore le peuple de Dieu, reconnu par Dieu lui-même, puisque ses prophètes encore agissaient là. Nous voyons que la confusion a été possible à cause de cela. Mais Josaphat va plus loin encore. « Mon peuple comme ton peuple ». Il engage son peuple à sa suite. Et cela, c'est grave. C'est une responsabilité qu'il prend ce jour-là. Non pas seulement de lui, Josaphat, de s'allier avec Akab, par mariage, dans sa famille ou autre, mais d'entraîner son peuple dans la confusion avec le peuple d'Israël qui adorait ses veaux d'or, nous le savons, Adam et Abéthel. Quelle confusion. Et je serai avec toi dans la guerre, mes chevaux comme tes chevaux. Je serai avec toi dans la guerre. Nous pouvons aller ensemble. Nous sommes tous des enfants d'Israël. Tous des enfants d'Israël, oui. Mais Dieu distingue Judas d'Israël. Et il va le distinguer, heureusement pour Josaphat. Parce que si Josaphat avait dit, moi je suis comme toi, effectivement, il se déguisera à Akab pour ne pas être reconnu. Et Josaphat prendra des habits royaux pour prendre, somme toute, la place d'Akab. Quelle terrible confusion. Elle est allée jusque-là. Moi, je suis comme toi. Eh bien, puisque tu as voulu être comme Akab, c'est toi qui seras visé à la guerre, Josaphat. C'est toi qui seras poursuivi. C'est toi qui seras poursuivi par l'ennemi à la place d'Akab, puisque tu as pris sa place. Et il faut alors qu'il crie à l'Éternel dans sa détresse pour qu'il soit véritablement délivré de la main de l'ennemi. C'est une grâce de Dieu et il l'a reconnu. Il le reconnaîtra plus tard. Il reviendra, il sera restauré. Mais il est allé jusque-là. Il n'a pas écouté la voix de Michée, le prophète de l'Éternel, le seul qui restait pour parler la vérité, le seul qui a eu le courage en face de tous les autres et en face de ces 400 prophètes idolâtres, le seul qui a eu le courage de dire la vérité à un roi qui certainement allait le persécuter pour cela. Il le savait, il savait ce qu'il attendait. Mais il est allé et il n'a pas fermé sa bouche. Il a fait cette prophétie qui condamnait ce roi d'Israël, qui condamnait Achab. Tu ne reviendras pas, tu ne reviendras pas, tu resteras sur le champ de bataille. Eh bien, il a eu ce courage de dire la vérité. Comme Jérémie plus tard aussi pourra dire la vérité, et nous savons ce qui est arrivé à Michée, ce qui est arrivé à Jérémie, il a été là, placé dans la fosse, dans la boue. Ce sont des prophètes courageux. Ce sont de ceux qui n'ont pas hésité à dire la vérité au péril de leur vie, comme le dit l'apôtre Jacques au sujet de ces prophètes. Verset 10 du chapitre 5. « Mes frères, prenez pour exemple de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Comme exemple de souffrance et de patience. Voilà des prophètes qui ont été persécutés. Voilà de ceux qui ont eu le courage de dire la vérité. Et cela, assurément, vaut aussi pour nous. Nous n'aurons pas peut-être à connaître la prison, l'exil ou la mort, comme d'autres peuvent le connaître encore de nos jours, mais nous aurons certainement à souffrir en disant la vérité. Eh bien, n'ayons pas honte du témoignage de notre Seigneur.
En réponse à la question très judicieuse qui a été posée tout à l'heure, j'aimerais ajouter encore une pensée. Les hauts lieux étaient simplement des surfaces sur la terre sur laquelle les Israélites venaient apporter des objets qu'ils destinaient à leur culte. Et les Ashères, comme on l'a dit, étaient ces idoles qui avaient été introduites par les païens et auxquels, hélas, beaucoup d'enfants d'Israël s'étaient dévoués. Il convenait donc que pour Israël, qui était le peuple de Dieu, qui avait été choisi par Dieu, à qui l'Éternel avait donné un culte qui voulait que ce peuple adore ce Dieu unique qu'avait choisi Israël. Ce Dieu ne pouvait supporter à sa place quelque chose qui ravissait le cœur des Israélites. Et ceci nous fait penser à ce que nous trouvons aussi dans la fin de la première épître de Jean, qui se termine brutalement par cette expression, par cette phrase. Enfants, gardez-vous des idoles. Les idoles, c'est tout ce qui prend dans notre cœur la place de Christ. Et ceci nous amène à considérer une des raisons de la défaillance de Josaphat. Son début a été remarquable. Et le secret de sa force fut, comme on l'a répété, d'être avec l'Éternel. Mais cet homme, ce roi, ne put supporter le succès que dans sa bénédiction Dieu lui avait donné. Et nous le voyons là, avec Achab, après la réception que ce roi fit à Josaphat et à ceux qui l'accompagnaient, une réception somptueuse. Il commence cet entretien au cours duquel Achab demande la participation de Josaphat. Ce Josaphat répond, comme on l'a souligné, et cela est très juste, « Je suis comme toi ». C'est déjà une pensée d'orgueil. Je suis comme toi. Il se compare. Josaphat éprouvait le besoin de se comparer à quelqu'un. Est-ce le propre de quelqu'un qui est humble? Et ensuite, il engage son peuple. Mon peuple est comme ton peuple. Effectivement, ce peuple avait été l'objet de la gestion très heureuse de son roi
il en avait éprouvé une forte prospérité. En témoignage, nous voyons que beaucoup de présents avaient été faits par le peuple, même Israël, à son roi. C'était donc un roi très apprécié. Et Josaphat s'emplate intérieurement. « Mon peuple sera comme ton peuple. » Voilà une autre raison et une des raisons essentielles de la chute de Josaphat. Il prit confiance en lui-même par orgueil. Et nous savons ce que dit la parole. L'orgueil va au-devant de la ruine et seule la grâce est réservée aux humbles. Josaphat n'avait pas réalisé ce que plus tard l'apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens. Que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Satan, de tout temps, aussi bien au temps de Josaphat qu'aujourd'hui, est là pour nous tendre des pièges. Et nous avons, comme cela a été aussi présenté à nous garder dans cette vigilance qui fait que nous serons dans une défiance complète de nous-mêmes. Mais par contre, dans une confiance en celui qui dirige tout pour le bien de ceux qui, dans l'humilité, s'attendent à lui.
Combien la parole est véritable quand elle assure que le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable. Et l'apôtre Paul vient confirmer ceci en disant que la chair est toujours inimitié contre Dieu. Il faut revenir en arrière pour se souvenir que les idolâtries de Salomon avaient provoqué la division du peuple de Dieu. Salomon, par son exemple, à la fin de sa vie, alors qu'au début de son règne, c'est un exemple unique du règne du Seigneur Jésus, venant en gloire pour établir son royaume, mais à la fin de sa vie, Dieu ne juge pas Salomon à cause de David. Mais après la mort de David, le royaume est divisé. Il y a donc le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Nous avons beaucoup de peine à comprendre ce qui arrive dans la parole aux hommes de Dieu, que ce soit Moïse ou Élie ou d'autres encore, mais la parole de Dieu est fidèle parce que Dieu est fidèle et le Seigneur est fidèle. Elle nous rappelle ce qui était pour Dieu, elle nous rappelle aussi ce qui ne l'a pas été. Et si nous voulons bien comprendre l'histoire de Josaphat, il faut mettre notre nom à la place de Josaphat. Quand nous sommes sauvés par grâce, il y a cette joie, ce bonheur de savoir que le Seigneur Jésus est tout pour nous. C'est le premier amour. Et puis, les années s'ajoutent aux années. Et parfois, un manque de vigilance. Et nous voilà que nous avons affaire avec la discipline du Seigneur. C'est une chose de penser que, à deux reprises, le règne de Josaphat, dans le début, où la parole nous relève tout ce qui était pour Dieu, et nous pouvons bien nous en souvenir, et il eut beaucoup de richesses et de gloire, mais le commencement du déclin, c'est le rappel, et il eut beaucoup de richesses et de gloire. Il faut bien souvent de nombreuses années pour apprendre à cultiver la communion avec le Seigneur pour éviter ses hauts et ses bas qui peuvent caractériser tous les enfants de Dieu. Cultiver la communion avec le Seigneur, chercher les choses qui lui sont agréables pour lui plaire à tous égards. Nous avons besoin d'être aux pieds comme Marie du Seigneur pour l'écouter nous parler. Non pas que nous ayons rien à dire, mais écouter la parole du Seigneur Jésus. Nous souvenir en effet qu'il est le serviteur parfait. Nous souvenir que dans l'Épître aux Hébreux, il est parlé de cette confiance que le Seigneur avait en son Dieu et en son Père. Et que dans les moments les plus terribles que nous ne connaîtrons jamais, alors le Seigneur a été obéissant. Il s'est anéanti lui-même. Il s'est abaissé lui-même. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort même de la croix. Lorsque le Seigneur Jésus souffrait et lorsqu'on outrageait, il ne rendait pas d'outrage. Quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement. Et un de nos frères a pu dire, c'était pour lui la retraite cachée de l'amour. Mais quand mon Sauveur était sur la croix, lorsqu'il expiait mes péchés et vos péchés, lorsque la communion était rompue, le Seigneur a glorifié son Dieu et Père par une inaltérable confiance en son Dieu, et c'est pourquoi il a été ressuscité par la gloire du Père. Vivre dans la communion avec le Seigneur Jésus, l'a recherché le matin, le soir et toujours, c'est nous éviter des jours difficiles où nous savons bien que nous ne sommes plus dans la main du Seigneur Jésus. Oh, je voudrais faire un appel solennel à toute la jeunesse d'ici, les jeunes gens, les jeunes filles, les adolescents, les hommes mûrs peut-être. Si aujourd'hui vous entendez la voix de Jésus, n'endurcissez pas votre cœur. C'est encore aujourd'hui le temps favorable. C'est encore aujourd'hui le jour du salut. La croix est encore annoncée. Et l'efficacité de l'œuvre de Christ est encore présentée. Ne résistez pas aux sollicitations de l'Esprit Saint. Dieu vous aime. Il a donné son Fils. Jésus vous aime. Il s'est livré lui-même pour nous sur la croix. Il est mort pour expier mes péchés, nos péchés. Et il nous donne cette certitude que si nous sommes à lui sauvés par grâce, eh bien, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce n'est plus comme autrefois des bénédictions matérielles, ce sont des bénédictions spirituelles. Nous jouissons de cette relation bénie d'enfants de Dieu avec leur Père, de ce doux nom de Père. Mais nous avons aussi une position qui est celle de Christ, et qui a été souligné dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean. « Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. »
Le verset 9 nous permet de nous représenter cette scène impressionnante. Voilà une place ouverte à l'entrée de la porte de Samarie, une foule nombreuse sans doute. Et puis il y a deux trônes, et deux rois revêtus de leurs robes, tout l'apparat, tout ce que l'honneur, la gloire humaine peut présenter de plus majestueux. Et puis devant eux, ces 400 prophètes qui se démènent, qui sont là pour... Dans un enthousiasme factice, n'est-ce pas, pour encourager le roi dans l'intention qu'il a. Mais au verset 18, il y a une autre scène. Il y a un trône aussi. Mais ce trône est dans le ciel. C'est le trône de Dieu. Alors, les événements terrestres ont toujours leur face cachée. Qu'il s'agisse du monde, de sa politique, nous savons bien dans quel sens elle se déroule. Et comment, à travers tout ce qui se passe dans le monde, Dieu conduit les événements pas à pas vers l'événement final qui sera sur la terre, le final non, mais mais l'événement qui sera l'avènement de la bête et du faux prophète et comment tout se met en place aujourd'hui. Tout est dirigé d'en haut, même si les hommes se croient indépendants et pensent pouvoir agir selon leur propre volonté. Mais alors il y a, dans cette contrepartie des événements terrestres, là, présenter la volonté de Dieu. Ah, il fallait que les choses se passent ainsi. Dieu n'est pas dépassé, jamais dépassé par les circonstances de l'homme. Et ces deux rois ne réalisent pas qu'il y a là, au-dessus d'eux, quelqu'un qui va intervenir. Laisser les choses se dérouler jusqu'à un certain point, mais ensuite intervenir. Et nous vous apprenons par là qu'il y a des esprits de mensonge, qu'il y a une puissance spirituelle dans les lieux célestes, puissance de méchanceté. Le début du livre de Job nous présente également une de ces scènes, nous montrant qu'à notre insu, il se passe dans le ciel des événements à notre sujet. Chacun de nous est là, dans une mise à l'épreuve sur la terre, avec, en haut, quelque chose qui se passe à ce sujet. Dieu veut que nous soyons vainqueurs, mais il y a un ennemi qui cherche à nous faire tomber. Et un accusateur permanent, cet accusateur met tout en œuvre, mais sur la permission et même l'intervention de Dieu lui-même. Et voilà ce Michée qui est le porte-parole de Dieu, le seul. 400 prophètes ont prophétisé dans un sens, lui est seul à dire la vérité. Et Josaphat a la bouche fermée, il va se laisser lier, il va se laisser prendre par son allié, même dans un piège, dont Dieu l'arrache au dernier moment pour le faire échapper, alors que la main de Dieu est là sur Akab et il est dit que à l'aventure, un homme a tiré de l'arc, mais cette flèche était dirigée par la main de Dieu pour mettre fin à la prétention et à l'orgueil du roi Akab et le faire tomber sur le lieu même où il avait jadis fait mettre à mort le fidèle Naboth. Il est précieux de voir que l'homme là ne fait pas ce qu'il veut. Nous le savons bien en principe, mais nous avons à nous souvenir de cela, c'est que dans nos circonstances aussi, si nous glissons, si nous allons vers un faux pas, une alliance avec le monde, Dieu dans sa fidélité nous en retirera, mais ce ne sera pas sans dommage pour nous. Et le chapitre 19, par la bouche d'un autre prophète alors, qui est le fils de Jéhu, qui est le fils d'Anani, précisément celui qui avait déjà repris le roi Asa. Alors Jéhu reprend le roi Josaphat. Le fils est repris par le fils du prophète qui avait repris son père. Et alors qu'Asa avait fait mettre en prison Anani, nous voyons que le roi Josaphat s'incline devant la décision divine, devant la parole qui lui est dite.
Quelques mots concernant Michée, un témoin tout à fait remarquable. Nous voyons d'abord qu'il est appelé par l'intermédiaire de Josaphat. Josaphat, sans doute, même s'il s'était placé sur le même plan qu'Akab, avait une conscience qui parlait quelque peu. Et même s'il dit « Enquiers-toi aujourd'hui, je te prie de la parole... » Josaphat dit au roi d'Israël « Enquiers-toi aujourd'hui, je te prie de la parole de l'Éternel. » Et ce sont des prophètes qui disent des mensonges que Akab était tout juste capable d'amener. Et puis, cela ne convient pas à Josaphat qui avait malgré tout vécu avec l'Éternel. Et il peut dire, verset 7, Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici encore un prophète de l'Éternel pour que nous nous enquérions auprès de lui? Il avait pris sa décision sans aucun doute et nous avons souligné combien c'était une folle décision de s'associer dans une telle bataille pour prendre Ramoth de Galaad. Néanmoins, nous voyons que dans le secret de son être intérieur, il y a une voix qui parle. Et le roi d'Israël répond immédiatement, il y a encore un homme pour consulter l'Éternel par lui, mais je le hais, car il ne prophétise pas du bien à mon égard, mais toujours du mal. Voilà comment est caractérisé un vrai prophète de l'Éternel par un homme sans doute religieux, souvent sollicité par les appels des prophètes, mais qui n'avait pas de relation avec Dieu. Donc la parole de Dieu le condamnait et il ne pouvait pas supporter une telle condamnation. Il dit toujours du mal. Il est vrai, au fond, dans ce témoignage. Mais combien cela est solennel. Et représentons-nous aussi l'activité d'un tel prophète qui devait toujours dire la vérité et cela entraînait pour lui beaucoup de souffrance, beaucoup de peine. Et alors il est convoqué et puis il est même induit pour parler comme les 450 prophètes des Achères. Et nous voyons que cet homme de Dieu a une parole tout à fait remarquable. Verset 13, « L'Éternel est vivant, que ce que mon Dieu dira, je l'annoncerai. » Voilà le vrai témoin. Il n'est pas impressionné par la foule des prophètes profanes, des prophètes idolâtres. Et nous voyons que ce qu'il a à dire, il va le dire. On peut désirer qu'il y ait dans nos assemblées, ne serait-ce qu'un Michée, qui dira la vérité, quoi qu'il puisse lui en coûter, d'un certain mépris, sans doute. Sans doute devons-nous toujours dire la vérité dans un esprit de grâce et d'humilité, nous garder là aussi de tout propos qui ne serait pas en accord avec les pensées de notre maître. Mais dire la vérité, quoi qu'il en coûte, cela représente une énergie spirituelle et morale tout à fait remarquable qui ne peut être puisée que dans la communion intime avec Dieu et dans la méditation de sa parole. Eh bien, ce Michée peut dire au verset 18, et c'est pourquoi écoutez la parole de l'Éternel. Et ce qu'il va dire nous ouvre tout un horizon qui est caché aux hommes, mais dont nous nous sommes conscients, c'est que Dieu a le gouvernement de toutes choses, quoi qu'il puisse apparaître sur la terre. Dieu tient tout dans sa main, et c'est lui qui aura le dernier mot. Michée est bafoué, il est mis en prison, on lui donne le pain d'affliction. Il n'en est pas surpris, sans doute, il peut s'y attendre, ceux qui vivent pieusement dans le Christ Jésus seront persécutés, cela est annoncé, cela ne devrait pas nous surprendre que nous soyons méprisés, même du monde religieux. Quelqu'un qui a à cœur la fidélité laisse à Dieu les conséquences de sa vie d'obéissance et du témoignage qu'il peut avoir à rendre par la parole de Dieu. Lorsque nous nous appuyons sur la parole de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, eh bien, Dieu est glorifié. Et ce Michée nous fait penser à un autre témoin, plus proche de nous, dans l'Apocalypse, dans l'assemblée de Pergame, où il est dit, le Seigneur dit, « Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan », chapitre 2 de l'Apocalypse, « Tu tiens ferme mon nom », voilà ce qui est dit de Pergame, « Tu n'as pas renié ma foi, même dans les jours dans lesquels Antipas était mon fidèle témoin, qui a été mis à mort parmi vous, là où Satan habite ». Et Satan habitait à cette cour-là, en la personne d'Akab et de tous ces faux témoins qui étaient ces prophètes des Achères. Il était là, présent, il avait son mot à dire. Eh bien, de même, dans cette Pergame, nous voyons l'esprit de Satan qui est à l'œuvre, et il y a pourtant des cœurs qui sont attachés au Seigneur, on peut le dire, mais le Seigneur se présente à cette assemblée comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. C'est là un des caractères de la parole de Dieu, une épée aiguë à deux tranchants. Et nous voyons qu'il y avait là un témoin fidèle qui se détachait du reste de ses croyants sans doute. Et il est mis à mort, sans doute par l'intervention de Satan. Ce n'était pas ses frères qui l'avaient mis à mort, sans aucun doute. Son nom signifie contre tous. Il était là témoin jusqu'à la mort de ce que sont les saintes exigences d'un Dieu qui veut la vérité, qui veut le bien de son peuple, et cela selon un principe d'obéissance. Eh bien, Dieu suscite des Michées par sa grâce encore, et Dieu veuille que nous ayons à cœur un tel service de dire la vérité de la part de Dieu, dans la crainte de Dieu, en nous soumettant nous-mêmes à cette vérité, car elle a ses propres exigences. Et il n'y aurait qu'un Michée dans une assemblée. S'il parle de la part de Dieu, il nous appartient, pour le salut de l'assemblée, d'écouter.
Encore une pensée au sujet du Michée. Voilà un homme que Dieu avait mis à part, un prophète, qui a pu parler au nom de l'Éternel, présenter la vérité, dans le sentiment qu'il avait affaire avec Dieu. Combien tout cela est solennel, n'est-ce pas? Un homme obligé de dire la vérité de la part de Dieu. Ce que Dieu me dira, je le dirai. Voilà donc ce qui est très important dans le temps présent. Les difficultés que vous rencontrez dans une assemblée, par exemple, sont des épreuves. Il ne faut pas penser qu'il n'y en a pas. Et nous les connaissons, chers amis. Et si nous avons affaire au Seigneur, tout en n'étant pas des prophètes, pour néanmoins chercher la communion du Seigneur dans ce que nous avons à faire, dans ce que nous pouvons avoir à dire, ce qui n'est pas toujours facile à exprimer, parce que cela entraînera inévitablement de l'opposition et de la contradiction, comme il est dit de la part des pécheurs, contre nous-mêmes. Combien tout cela est grave, chers amis, et dire que nous pourrions être employés si nous désirons faire la volonté de Dieu et exprimer ce que Dieu nous met à cœur de dire. Non pas pour nous mettre en avant ou nous donner de l'importance, ce n'est pas notre rôle, mais écouter ce que Dieu nous dit. Nous pouvons avoir la pensée de Dieu. Par l'Esprit, nous avons la pensée de Dieu. L'apôtre a pu dire, n'est-ce pas, nous avons la pensée du monde, mais la pensée qui est de Dieu, et tout cela par un effet de la puissance du Saint-Esprit dans le cœur. Dieu peut nous dire des choses que nous ne pouvons pas expliquer à tout le monde, mais que nous avons à cœur d'exprimer, parce que nous sommes dans la pensée, nous savons que nous sommes dans la pensée de Dieu. Combien tout cela devient important dans les temps difficiles que nous vivons, n'est-ce pas? Alors il faut penser que nous avons une responsabilité à laquelle il nous faut répondre, pour ne pas passer à côté en cherchant des chemins de division, des chemins moyens, qui ne sont pas forcément la pensée de Dieu. Mais disons-nous aussi que nous n'avons pas forcément la pensée divine, mais que nous pouvons exprimer la pensée que Dieu nous met à cœur d'exprimer devant ceux qui nous entourent pour le bien du témoignage et le bien de l'assemblée.
Qu'il nous soit permis encore d'ajouter un simple mot à l'égard de la séparation, parce que la séparation va de pair avec le témoignage. Il ne peut pas y avoir de témoignage autant collectif qu'individuel s'il n'y a pas de séparation. Non seulement de séparation extérieure, mais intérieure du cœur. Pas possible. JND, dans un écrit, a dit que nous ne pouvons pas ne pas avoir des relations avec le monde. Nous sommes obligés d'en avoir par notre travail. Mais il ne faut jamais que cela devienne une communion, une affaire de communion. Voilà ce que notre frère place devant nous. Et il s'agit du cœur. Du cœur. On peut être extérieurement séparé du monde et avoir le cœur rempli des choses du monde. Comment voulons-nous rendre témoignage? Si Michée a parlé, s'il a rendu son témoignage, c'est parce qu'il marchait avec l'Éternel. Pourquoi Pierre n'a pas dit la vérité? Oh, c'est très simple. Pierre n'était pas là où il aurait dû être. Et ainsi, nous-mêmes, si nous voulons rendre un témoignage qui soit à la gloire du Seigneur, un témoignage individuel dans notre marche pratique de chaque jour, chers amis, il nous faut bien comprendre que le monde et les croyants sont deux espèces de semences différentes. si nous voulons rendre un témoignage collectif à la gloire du Seigneur, à la table du Seigneur, nous devons être séparés de toute iniquité.